Bonjour tout le monde, on va commencer la remise du prix des collégiens 2017 à l'auteur que vous avez choisi, Nathalie Stragier. Donc bienvenue à tout le monde, vous êtes très nombreux, c'est pour ça qu'on a fait deux remises de prix. Vous êtes celle de cet après-midi, vous étiez cette année 35 établissements à participer au prix des collégiens. Donc, ça fait vraiment un immense prix, et effectivement, c'est quelque chose de très important, et pour l'auteur qui a été lauréat, et pour son éditeur. Donc on va vous présenter un petit peu le prix en lui-même, et puis vous pourrez à la suite poser vos questions. D'accord ? Donc Martine Maps, enseignante et coordinatrice du prix régional des collégiens, a resitué un peu les choses. Vous étiez au moins si nombreux ce matin, donc c'est vraiment un beau succès pour ce prix. Des centaines de collégiens qui se passionnent, qui lisent 5 romans tout au long de l'année avec l'aide de leurs professeurs, qui en discutent, ne sont pas toujours d'accord, c'est mon avis, et qui finalement votent démocratiquement et font un choix et choisissent, même si tout le monde ne se comprend pas, parce que même plus ou moins tel ou tel livre, se retrouvent sur un livre, et c'est donc la thème stratégique qui a été choisie cette année, son roman par nos éditions Silence, et qui répondra bien évidemment tout à l'heure à vos questions. Je ne vais pas être très long parce que c'est surtout elle que vous êtes venu m'écouter. Je voulais simplement vous dire que d'abord, on est vraiment extrêmement enchanté et final de pouvoir accueillir toutes ces classes et de faire participer à ce projet tout au long de l'année, de rencontrer des écrivains, y compris pendant cette journée. Et plus tard, je l'espère, dans les années qui viennent, vous découvrirez peut-être au prix national des lycéens, vous continuerez à être passionné par ces littératures qui, à la fois, nous distraient, passent un bon moment avec un bon livre imaginaire. Et puis, Nathalie vous le dira sans doute mieux que moi, quand même, il faut un peu réfléchir à certains sujets, parfois par le biais de l'humour ou de la métaphore. Et là, je parle quasi comme une enseignante que j'ai été pendant de nombreuses années. Donc, quelque part, je me retrouve à penser à ce métier. J'en profite pour remercier les enseignants qui s'investissent avec passion autour de ce projet, qui mettent de l'enthousiasme et du temps, et qui, pour certains d'entre eux, ont appris les littératures imaginaires avec leurs élèves, et qui maintenant sont vraiment pertinents. Et puis aussi les chefs d'établissement, parce que sans leur soutien et sans leur aide, évidemment, on ne pourrait pas trouver des financements et le temps pour pouvoir se déplacer au festival. Voilà. Donc, le Festival des Imaginales, c'est un grand festival d'imaginaire, 300 écrivains présents, plus de 150 invités, des gens qui viennent du monde entier, Argentine, Islande, États-Unis, Royaume-Uni, la Suisse, évidemment, c'est le pays invité cette année, et aussi, bien sûr, beaucoup d'écrivains français, à la fois des écrivains d'un âge certain, c'est-à-dire du lien, ou alors des jeunes écrivains qui débutent parfois à 18, 20, 25 ans et qui sont les futurs écrivains connus de demain et que vous pouvez parfois aider par vos votes à progresser et à être reconnus. Voilà, j'en ai assez dit. Je vais maintenant passer la parole évidemment à l'auteur pour qu'elle puisse vous dire un premier mot, qui est un mot évidemment avant tout remerciement, mais elle a peut-être quelques petites choses à vous dire et peut-être quelques messages à vous faire passer. Je donne donc la parole à l'auteur que vous avez choisi pour le prix imaginal des collégiens 2017, Nathalie Stragier.
Merci. Alors, merci à tous et bravo d'être des grands lecteurs. Bravo de vous intéresser aux livres et de voyager à travers les livres. C'est super, on dit souvent que les jeunes ne lisent plus et vous êtes la preuve que c'est faux. Les jeunes lisent encore. Merci beaucoup et je suis ravie que mon roman vous ait plu. Alors j'aurais aimé venir avec Pénélope et elle m'a fait une crise en fait. Elle a refusé de venir parce qu'elle a un bouton d'acné et vous savez qu'elle mange beaucoup de chips et qu'elle boit d'orangina. Donc elle n'a pas osé venir mais elle m'a laissé un petit mot pour vous. Chers amis, je suis très contente que vous ayez voté pour mon histoire. Je tiens d'abord à remercier les filles. Vous et moi, on se comprend. Je suis sûre que vous aussi, parfois, vous trouvez que les garçons sont bizarres. Mais, comme moi, vous savez au fond de vous-même que ce sont des êtres humains comme les autres. Mais je tiens aussi à remercier les garçons. Je pensais autrefois que votre cerveau avait des capacités limitées. Mais j'ai compris que je m'étais trompée. Et moi ne me suis donc bien contente, Andréa et moi, que nous ayons sauvé la vie. Vous êtes épatants, vous, les gens du Moyen-Âge, parce que vous arrivez à vivre tous ensemble, même si vous êtes différents. Je suis sincèrement heureuse de vous connaître. Je vous fais de gros bisous. Pénélope.
Avant de redonner la parole à Martine Marx un bref moment, où elle va pouvoir présenter aussi le prix, mais je vais passer la parole à un de nos partenaires, une revue, un magazine, Je Bouquine, qui donc soutient le Festival Imaginal, participe, et depuis l'an dernier est très présent. Déjà, vous avez bénéficié d'un exemplaire qui vous permet de découvrir pour certains d'entre eux, ceux qui ne connaissaient pas encore le magazine, et pourquoi pas, comme d'autres avant vous, vous y abonner, parce que c'était vraiment un bonheur de lecture. Je rappelle que l'an dernier, Je Bouquine avait accueilli Victor Dixen, un écrivain qui avait eu le prix Imaginal des collégiens, vous voyez, ils ont beaucoup. Et cette année, là aussi, un écrivain invité des Imaginales, mais je laisserai notre partenaire vous en parler. Je voulais juste vous dire aussi que parmi nous, on avait ici présente Elisabeth Del Genini, qui est adjointe au maire de la ville d'Épinal, qui s'occupe depuis le début, puisqu'elle est adjointe au tourisme et à la promotion de la ville. Elle s'occupe du Festival Imaginal avec enthousiasme et passion. Elle est un des moteurs du festival depuis le début, et toute l'équipe municipale. Et d'autre part, Elisabeth Del Genini est depuis peu de temps conseillère régionale, où elle permet aussi d'avoir le soutien de la région, parce que, évidemment, c'est important, même si, pour les collégiens, vous le savez, les établissements sont gérés par le département, et c'est donc le département qui offre la bourse à Nathalie Stragier pour lui montrer à quel point, parfois, les espèces sonores et très touchantes vont aussi un petit peu appuyer concrètement l'hommage qui vous sera fait par le petit ouvrage que Martine va présenter tout à l'heure. Mais avant, donc, je passe la parole à notre partenaire. Je Bouquine, en deux mots, ce magazine, dites-nous un peu ce que c'est, dites-nous un peu ce que vous nous proposez et pourquoi vous êtes partenaire des Imaginales.
Bonjour, je suis rédactrice à Je Bouquine. Et Je Bouquine est donc partenaire des Imaginales, et on est très content et très fiers depuis 2 ans, parce que c'est pour nous l'occasion déjà de vous rencontrer, ce qui est important, on a toujours besoin de voir nos lecteurs. Vous nous épatez parce que vous faites un travail extraordinaire pendant toute l'année sur 5 ans avec vos enseignants, et c'est très précieux pour nous d'avoir des échos, votre avis, de savoir ce que les collégiens d'aujourd'hui aiment et lire. Et puis, Je Bouquine profite de ce prix également pour explorer tous les territoires des littératures imaginaires. Donc, ce numéro que vous avez entre les mains, il s'agit du thème de cette année. De Christian Léonier, qui est un grand auteur de science-fiction, qui a écrit tout spécialement pour ce numéro, et qui traite de voyage dans l'espace, puisque le thème du numéro, c'est le space opéra. C'est le voyage dans l'espace, mais aussi un peu le voyage dans le temps, et vous verrez qu'il y a une histoire de filiation et d'ancêtre qui se mêle à cette aventure. Voilà, et puis je voulais aussi vous remercier d'avoir en grande majorité choisi comme gagnante de ce prix, parce que c'est une auteure qu'on aime beaucoup à Maillard Presse en général et à Je Bouquine en particulier, parce qu'elle a déjà écrit pour nous aussi, donc dans la presse, à côté des livres qu'elle a commencé à écrire. Elle était notamment l'auteur d'une nouvelle qui est parue dans le premier numéro de la nouvelle formule de Je Bouquine, puisque Je Bouquine, depuis 1 an et demi maintenant, s'est transformée.
Moi, je tenais à vous remercier tous parce que, et d'abord nos enseignants qui nous suivent depuis le début de cette aventure. C'est la première remise de prix, c'était en 2009. Donc, on commence à faire un gros bébé. Vous étiez 35 établissements cette année. Donc,
dresser une histoire. Alors, quand j'ai lu un petit peu ce que vous avez dit, ou ce qui s'est dit lors de la délibération finale du 2 mai, c'est voilà, vous avez aimé le fait de pouvoir vous entrer facilement dans l'histoire, d'avoir un vocabulaire qui était à votre portée, et puis quand même d'avoir une histoire qui vous permettait de vous poser des questions sur notre monde d'aujourd'hui. En particulier les filles, vous avez pu poser des questions suite à la lecture de ce roman. Et donc, vous avez décidé le 2 mai, soit en participant à la délibération, soit par Internet, de donner le prix cette année, le prix Imaginal des collégiens 2017, à Nathalie Stragi. Donc, elle va vous parler un petit peu, puis après, vous pourrez lui poser les questions que vous voulez. Donc, je vais vous dire en deux mots d'où je viens, puis après, en effet, posez-moi vos questions. Donc, moi, j'ai deux métiers. Je suis scénariste depuis une vingtaine d'années. J'ai fait une école de cinéma. Et depuis quelques années, donc, j'ai écrit des romans pour la jeunesse. Et c'est vrai que mes premiers textes ont été publiés dans J'avais et dans Je publie. Donc, ça me fait particulièrement plaisir que ces livres soient là aujourd'hui. Donc, voilà, depuis quelques années, j'écris pour la jeunesse. Et Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous est en fait mon premier roman. Avec les deux autres, la trilogie qui s'est terminée là récemment. Et puis, je vais partir sur de nouveaux projets, toujours pour les jeunes. Voilà, je suis à l'écoute de vos questions.
Quelle a été votre source d'inspiration pour écrire ce livre ?
Alors moi, c'est ma source d'inspiration. C'est tout ce qui se passe autour de nous, de moi, tout le temps. C'est la vraie vie, c'est une rencontre avec vous, c'est la vie quotidienne. L'inspiration, c'est un petit peu comme si on devenait attentif à ce qui se passe autour de soi. Et qu'on se disait, non, mais après l'événement, quelque chose qui m'arrive, ça me touche, ça provoque des émotions en moi, ça pourrait peut-être faire une bonne histoire, que ce soit pour un film ou pour un livre. choisis d'évoquer un monde sans hommes. Alors, j'aurais pu faire l'inverse. J'aurais certainement pu faire l'inverse. Imaginez l'inverse, mais je suis partie sur cette option-là parce que j'avais envie d'un personnage, la fille du futur, qui arrive à notre époque et qui pointe du doigt un certain nombre de choses qui nous ne nous étonnent plus parce qu'on les vit au quotidien. On est habitué, c'est comme ça. Mais elle, elle vient d'ailleurs et elle pose des questions. Et ces questions ont l'air un peu idiotes, un peu naïves comme ça. Mais l'intérêt de ce personnage, c'est que en réfléchissant un peu, en fait, ce sont des questions qui ne sont pas si stupides que ça. Et elle prend du doigt des choses auxquelles nous, on est habitués, mais peut-être qu'on a tort d'être habitués et de les accepter aussi facilement. Et ces questions-là sont liées au fait que, elle, dans le monde où elle vient, il n'y a plus d'hommes. Et alors, pourquoi j'ai supprimé cette partie-là de la population et pas l'inverse ? C'est qu'il se trouve que dans notre société, peut-être que vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de choses que les garçons et les hommes font et que les filles font beaucoup, beaucoup moins. Par exemple, les filles, pour l'instant, n'ont pas encore été présidentes de la République en France. Les filles sont bien souvent, ont bien souvent des rôles subalternes, moins importants dans les entreprises, ont tout un tas de professions. Il y a des professions qui restent très, très masculines, on appelle ça aussi d'ailleurs. Et je voulais poser la question de qu'est-ce que serait un monde s'il n'y avait pas les hommes et comment ils seraient organisés. Et ce personnage de Pénélope, c'est pour moi le moyen de pointer du doigt toutes ces choses-là.
Bonjour. Avant de vous lancer dans l'écriture d'un roman, est-ce que vous mettez vos idées en plan ou vous laissez conduire par la plume ?
Alors, je ne commence jamais à écrire sans savoir où je vais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je commence un nouveau projet, j'essaie d'imaginer l'ensemble de l'histoire le plus précisément possible. Je cherche mes personnages, bien sûr, et je cherche aussi tous les moments importants de l'histoire. Je cherche la trajectoire de chacun des personnages. Je cherche la fin, bien sûr. Et quand on dit une fin, c'est une fin qui ait du sens par rapport au reste de l'histoire. Et donc, je prends des notes sur plein de bouts de papier sans s'en mettre tout de suite devant l'ordinateur. Et ce que je fais aussi, c'est que je note tous les moments qui me semblent importants dans le livre, tous les moments clés. Je les note sur des post-it que je colle sur le mur. Ce qui est bien, c'est que ça me permet d'avoir une vue d'ensemble, parce qu'un mur, c'est beaucoup plus grand qu'une feuille de papier. Et l'avantage des post-it aussi, c'est que ça se décolle et ça se recolle ailleurs très facilement. Donc ça me permet de déplacer des moments du livre en choisissant peut-être un autre endroit pour eux. Et parfois, c'est un meilleur endroit. Donc c'est très pratique, cette méthode des post-it.
Bonjour. Est-ce que votre roman vous a fait réfléchir ?
Est-ce que mon roman m'a fait réfléchir à quoi ? Alors oui, on réfléchit toujours quand on écrit un roman, et là, en l'occurrence, il m'a fait réfléchir sur un thème bien particulier, qui est, et on revient à la même chose, c'est qu'est-ce que c'est être une fille, qu'est-ce que c'est être un garçon ? Et qu'est-ce que la société attend de nous, fonction qu'on soit une fille ou un garçon ? Et je pensais être consciente de déjà beaucoup de choses, mais plus j'écrivais, plus j'étais plongée dans cette écriture, et plus je voyais des nouvelles choses qui jusqu'à maintenant ne m'avaient pas frappée. Toutes sortes de choses qui sont ce qu'on appelle des injonctions, c'est-à-dire des choses que la société attend de vous, selon que vous soyez fille ou garçon, et qui ne me frappaient pas avant, parce que tout simplement je n'y pensais pas et j'y étais habituée.
Bonjour, c'est-tu votre auteur préféré ?
Alors j'en ai plein, je lis beaucoup. Allez, je vais vous dire, mais c'est un auteur que vous découvrirez au lycée, c'est un auteur russe qui a écrit des gros romans, c'est Dostoïevski, mais vous allez pouvoir arriver en âge pour le découvrir. Par contre, ce ne sont pas des comédiens, Dostoïevski, c'est autre chose.
Bonjour, je voudrais savoir qu'est-ce qui est le plus difficile quand on écrit un roman ?
Alors pour moi, le plus difficile. difficile, c'est le milieu du roman. Le début du roman, c'est sympa, tout est possible, on peut inventer plein de choses. J'aime beaucoup les débuts. La fin, je trouve ça moins amusant, mais on sait où on va, ça va. Mais le milieu, je trouve ça très difficile, parce que le milieu, c'est un gros morceau du roman. Et il y a un vrai danger, quand on écrit, de ralentir le rythme et de faire quelque chose qui devient ennuyeux. Et c'est globalement dans toute cette grosse partie qui est le milieu du roman. Et ça, à chaque fois, quand j'écris, c'est un passage que je trouve difficile.
Bonjour. Avez-vous des conseils à nous donner pour écrire des livres aussi?
Alors, il y a deux choses dans ta question. Il y a pour écrire des livres, la meilleure façon, il faut savoir que écrire, ça s'apprend. Et que plus tu écris, plus tu sauras écrire. Donc la première chose, c'est apprendre, découvrir de tes erreurs. Il faut faire lire tes textes à d'autres personnes pour voir un petit peu ce qui réussit, ce qui n'est pas réussi. Ça, c'est la première chose, c'est apprendre. Et l'autre chose, c'est ne pas se décourager. C'est pas facile de s'entendre dire que le texte est un petit peu raté, qu'il n'a pas forcément plu. Puis c'est pas facile tout simplement d'apprendre et de savoir construire une histoire, écrire un livre. Donc si on veut faire ça, il faut s'acharner, il ne faut pas se décourager quand on a des avis négatifs. Quand j'ai envoyé mon manuscrit à une dizaine d'éditeurs, je ne savais pas si quelqu'un s'était intéressé. Et j'ai attendu les réponses qui arrivaient par la poste. Et j'ai d'abord reçu des réponses négatives. J'avais envoyé mon manuscrit à une dizaine d'éditeurs et j'ai reçu 3 ou 4 réponses négatives. Si je m'étais découragée, je serais pas allée très loin. Alors finalement, j'ai eu des réponses positives, mais ça c'est très important. Il faut tenir bon, il faut savoir ce qu'on veut et ne pas se décourager. Bonjour, pourquoi l'idée du sèche-cheveux? Alors le sèche-cheveux fait quoi? Le sèche-cheveux fait du vent. Et c'est ça qui m'intéressait. Quand on pense voyage dans le temps, la plupart du temps, et c'est souvent ce qui a été fait dans la littérature ou au cinéma, on pense machine, on pense technologie, et on imagine une machine avec plein de cadrans et plein de boutons, quelque chose de très compliqué. Moi, j'avais envie de prendre le contre-pied de cette façon de voyager. J'avais envie d'une façon de voyager dans le temps qui soit presque poétique, qui fonctionne sur la volonté, sur la concentration. J'ai imaginé aussi qu'elle soit liée au cycle de la Lune. Et je me suis dit, oh, et c'est joli aussi d'imaginer qu'on peut être emporté par le vent. Donc j'ai imaginé que le vent aidait à voyager dans le temps. Et quelle machine fait du vent? C'est bien les sèche-cheveux. Les sèche-cheveux étant par ailleurs un objet qu'on utilise souvent donc pour être joli, pour être coquette. Et ça collait bien au mon sujet. Donc voilà pourquoi le sèche-cheveux.
Dans le tome 2, c'est qui le garçon sur la première couverture, Antares ou qui est...
C'est Antares. Pierrick, tu le vois sur le tome 1, tu le retrouves sur le tome 3 et on reconnaît que c'est bien le même garçon, mais sur le 2, c'est Antares. Pourquoi est-ce que je suis devenue écrivain? Alors, parce que j'en avais envie. Parce que là encore, je ne me suis pas découragée. Quand j'avais votre âge, j'étais en 4e ou 3e, je lisais beaucoup et je me suis dit que j'aimerais bien devenir écrivain. Et j'ai gardé cette idée-là quelques mois seulement, et puis après, je l'ai abandonnée parce que je me suis dit qu'écrivain, ce n'était pas un vrai métier, et que dans la vraie vie, les gens ne devenaient pas écrivains. Moi, j'ai grandi dans une ville de province, je connaissais personne comme vous, je connaissais personne qui travaillait spécialement dans ces milieux-là. Et donc j'ai oublié cette idée. Et finalement, de longues années plus tard, j'y suis revenue. Et bien j'avais raison, en fait. Comme quoi, quand on a un rêve, quand on a envie de faire quelque chose, ça vaut la peine de s'accrocher. Parce que finalement, ça s'est avéré possible.
Bonjour, moi je voulais savoir comment vous organisez votre journée d'écriture.
Alors, certains vous diront qu'ils n'écrivent que la nuit, par exemple, des choses un peu magiques comme ça, vous merci à tous. Je vais regarder ça attentivement. Merci.
On va encore prendre 2-3 questions, puis après il faudra qu'on s'en aille, parce que même si la rencontre est très agréable, il y a d'autres cafés, d'autres rencontres qui sont prévues après. Donc encore 2-3 questions.
Avez-vous prévu une quatrième tome?
Non, c'est fini.
C'est vraiment fini avec la fin du tome 3. J'ai l'impression que les personnages ont fini leur vie, c'est leur histoire. Tout le monde a appris quelque chose et c'est bon, ils peuvent vivre leur vie maintenant. Donc c'est fini avec le tome 3.
C'est quel livre que vous avez préféré écrire?
Peut-être le tome 2. J'aime bien le tome 2. Le tome 3, je viens vraiment de le finir, j'ai pas tellement de recul. Le tome 3, sans vous spoiler trop, je peux vous dire que celui-là se passe dans le futur. Donc c'était amusant d'imaginer le futur. Amusant, mais pas forcément toujours facile. J'aime bien le tome 2, je trouve qu'il est un peu meilleur que le tome 1, parce que j'ai appris, justement. Et puis, le fait que ce soit Pénélope qui soit narratrice, c'est assez marrant. Donc, je crois que c'est le 2 que je préfère.
Combien de temps avez-vous mis à écrire ce livre?
Alors, le tome 1, j'ai mis à peu près un an à l'écrire, sachant que j'avais déjà l'idée en tête depuis longtemps, j'avais déjà en tête pas mal de choses, les personnages, une partie de ce qui allait se passer. Et j'ai mis à peu près un an pour l'écrire, sans savoir si un éditeur serait intéressé, donc j'ai pris le temps pour faire beaucoup de versions améliorées, pour être sûr que le texte que j'enverrai aux éditeurs soit un bon texte, parce que s'il était moyen, les éditeurs n'auraient pas pris. Donc j'ai mis à peu près un an. Le tome 2 et le tome 3, je les ai écrits un peu plus vite parce que je connaissais déjà les personnages. Donc j'ai mis 9 mois pour écrire le 2 et pareil pour le 3.
Une dernière?
Non? Oui, je vide ma plume parce que j'ai deux plumes en quelque sorte. Je suis aussi scénariste, c'est aussi l'écriture. Si je n'avais que les romans, je n'en vivrais pas. D'accord, c'est pas assez. Les auteurs ne sont pas énormément payés en littérature. Par contre, mon autre métier de scénariste me fait vivre parce qu'à la télé, en gros, il y a plus d'argent. On est mieux payé. Donc je vis bien de mon métier de scénariste. Et c'est un petit plus le métier d'auteur jeunesse. Par contre, c'est un grand plaisir.
Encore une petite question, là, pour le jeune homme en... Si les autres sont calmes, on pourra entendre sa question sans micro.
C'était la dernière même question quasiment ce matin. C'est une bonne question. Donc ce matin, je disais, je ne sais pas si mon éditeur sera content, mais j'ai répondu quand même. Et je pense que c'est pas un secret. Donc le tome 1 est sorti en janvier 2016. Et à la fin de chaque année, les éditeurs font les comptes précisément des livres qui sont vendus. Entre deux, on a juste une estimation. Donc c'est sorti début janvier 2016. Et donc au 31 décembre 2016, on fait les comptes. Donc j'ai le chiffre exact. Donc depuis, d'autres exemplaires ont été vendus, mais en tout cas, à la fin du mois de décembre, on en avait vendu 15 800, ce qui est bien.
Oui, comme disait Stéphanie Nico ce matin, 2 000, 3 000 exemplaires vendus, c'est déjà bien. Alors vous imaginez, plus de 15 000, c'est super, super bien.
Voilà, moi, avant que nous nous séparions, je voulais vous redire, au nom du député-maire de la ville d'Épinal, mais aussi de notre grande, grande région qui s'appelle Région Grand Est, combien nous sommes fiers de vous et vous remercier pour tout ce travail que vous avez fait et vous remercier pour vos débats. Donc juste avant que vous vous sauviez, donc je vous souhaite de bien profiter de cette journée au festival. Si ça vous a plu, revenez avec vos parents ce week-end. Les auteurs sont dédicaces sous la bulle du livre. Il y a un pôle histoire, il y a un pôle BD. Profitez au maximum. Bonne journée.